France Culture.
Les nuits de France Culture.
Serge Golovine, Werner, Moussia, Vassili Kachirine et Tania Kovalchuk, cinq prisonniers politiques, cinq révolutionnaires et deux détenus de droit commun, Ivan Jansson et Mishka le Tsigan. Ce sont les noms des condamnés à mort dont Léonid Andreïev racontait les dernières heures dans son roman Les Sept Pendus, publié en 1908. Un livre qu'avait choisi de commenter et de lire Vladimir Jankélévitch dans une série en 9 épisodes de l'émission Le Livre de Chevet en 1967. Un livre de chevet familial en quelque sorte pour le philosophe qui, dans son enfance, avait vu ses parents le lire avec émotion. À Vladimir Jankélévitch, auteur en 1966 d'un essai philosophique intitulé « La mort » dans lequel il faisait référence aux sept pendus, était posée cette question au début du quatrième volet de la série. La peine de mort n'est-elle pas une manière de sacrilège ? Écoutons sa réponse et écoutons le lire des extraits du septième chapitre des sept pendus qui avait pour titre « Il n'y a pas de mort ». Le livre de chevet, Vladimir Jankélévitch présente « Les sept pendus » de Léonid Andreïev, quatrième des 9 épisodes, diffusé le 1er juin 1967 sur France Culture.
L'ORTF vous présente le livre de chevet de Vladimir Jankélévitch, qui vous lira des extraits des Sept pendus de Léonid Andreïev.
Vladimir Jankélévitch, avant de reprendre la lecture du conte des sept pendus de Léonid Andreïev, je vous rappelle votre exclamation. La peine de mort n'est-elle pas une manière de sacrilège ?
Assurément, je crois qu'on peut le dire, puisqu'elle rend le temps grimaçant et monstrueux. La légende grecque que je rappelle dans mon livre dit que les hommes ont été privés de l'immortalité par la volonté de Zeus, qui les a condamnés à mourir, mais pour que leur supplice ne fût pas infernal, le roi des dieux, en les condamnant à la mort, a bien veillé à ce que la date de la mort leur fût soustraite, de façon qu'ils puissent savoir qu'ils mourront, mais ne puissent pas savoir quand. Ils savent que, mais ils ne savent pas quand. Le que leur est donné, mais pas le quand. Et quand on sait à la fois le que et le quand, quand on sait à la fois que, comme nous le savons tous, et quand, et que nous ne devons pas savoir, la vie devient intolérable. Et c'est justement le caractère infernal de la durée du condamné à mort, de pouvoir ainsi prévoir sa mort d'une manière certaine, d'assister lui-même à l'usure monstrueuse de ce temps, le temps grignoté par la mort certaine. Mors certa, ora certa, c'est ça que l'homme ne peut pas supporter. Voici maintenant quelques extraits du chapitre 7, intitulé « Il n'y a pas de mort ». À quoi Moussia pense-t-elle encore ? À bien des choses, car pour elle, le fil de la vie n'est pas coupé par la mort. Mais continue à se dérouler de manière calme et régulière. Elle pense à ses camarades, à ceux qui de loin sont angoissés par l'idée de son supplice prochain, à ceux qui plus proches iront avec elle à la potence. Elle est étonnée que Vassili soit en proie à une telle peur, lui qui a toujours été brave. Le mardi matin, alors qu'ils étaient préparés à tuer et à mourir eux-mêmes, Tania Kovalchuk avait tremblé d'émotion. Il avait fallu l'éloigner, tandis que Vassili plaisantait, riait, au milieu des bombes, avec si peu de précautions que Werner lui avait dit d'un ton sévère « Il ne faut pas jouer avec la mort ». Pourquoi donc Vassili a-t-il peur maintenant ? Cette terreur incompréhensible est si étrangère à l'âme de Moussia qu'elle cesse bientôt d'y penser et d'en chercher la cause. Soudain, une envie folle la prend de voir Serge Golovine et de rire avec lui. Peut-être aussi sa pensée ne veut-elle pas s'arrêter longtemps sur le même sujet, comme un oiseau léger qui plane devant les horizons infinis et pour lequel l'espace tout entier, l'azur caressant et tendre, est accessible. Les heures sonnent. Les pensées se fondent dans une symphonie harmonieuse et lointaine. Les images fuyantes deviennent une musique. Il semble à Moussia qu'elle voyage pendant une nuit tranquille, sur une route large et douce. Les ressorts de la voiture tressautent faiblement. Tous les soucis ont disparu. Le corps fatigué se dissout dans les ténèbres. Joyeuse, hélas, la pensée crée paisiblement de vives images et s'enivre de leur beauté. Moussia se rappela trois camarades qui avaient été pendus récemment. Leur visage était illuminé et proche, plus proche que ceux des vivants. Ainsi, le matin, on pense gaiement aux amis hospitaliers qui vous recevront le soir, le sourire aux lèvres. À force de marcher, Moussia se sentit très fatiguée. Elle se coucha avec précaution sur le lit de camp et continua à rêver, les paupières à demi closes. Est-ce bien la mort ? Mon Dieu, qu'elle est belle ! Ou est-ce la vie ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais voir et entendre. Dans les premiers jours de son emprisonnement, elle était en proie à des hallucinations. Elle avait l'oreille très musicale. Affinée encore par le silence, son sens auditif rassemblait les échos les plus ténus de la vie. Le pas des sentinelles dans le corridor, le tintement de l'horloge, le chuchotement du vent sur le toit de zinc, le grincement d'une lanterne, tout cela se fondait pour elle en une vaste et mystérieuse symphonie. Au commencement, ces hallucinations effrayèrent Moussia, qui les chassait comme des manifestations morbides. Puis elle comprit qu'elle était bien portante, qu'il n'y avait là aucun symptôme pathologique. Alors, elle ne résista plus. Je saute quelques pages et je termine ce chapitre en lisant le rêve de Moussia. De nouvelles formes viennent, qui se penchent sur elle, l'entourent d'un nuage transparent, les lèvent très haut, là où planent les oiseaux de proie. À gauche, à droite, en haut, en bas, partout les oiseaux crient comme des héros. Ils appellent, ils avertissent, ils déploient leurs ailes et l'immensité les soutient. Et sur leur poitrine gonflée qui fend l'air, se reflète l'azur étincelant. Les battements du cœur de Moussia deviennent de plus en plus égaux, sa respiration de plus en plus calme et paisible. Elle s'endort. Son visage est pâle, ses traits tirés, ses yeux cernés, sur ses lèvres un sourire. Demain, quand le soleil se lèvera, ce visage fin sera déformé par une grimace qui n'aura plus rien d'humain. Le cerveau sera inondé d'un sang épais. Les yeux vitrifiés sortiront des orbites. Mais aujourd'hui, Moussia dort tranquille et sourit dans son immortalité. Moussia dort. Et la prison continue à vivre sa vie spéciale, aveugle, vigilante, comme une inquiétude perpétuelle. On marche, on chuchote, un fusil résonne, il semble que quelqu'un crie. Est-ce vérité ou hallucination ? Le guichet de la porte s'abaisse sans qu'on l'entende. Dans l'ouverture noire apparaît une sinistre figure barbue. Longtemps, des yeux écarquillés, contemplent avec étonnement Moussia endormi. Puis la figure disparaît comme elle est venue. Le carillon sonne et chante longuement. On dirait que les heures fatiguées gravissent vers minuit une haute montagne. L'ascension est de plus en plus pénible. Elles glissent, retombent en arrière en gémissant et se remettent à monter péniblement vers le noir sommet. On marche, on chuchote, déjà on attelle les chevaux à la sombre voiture dépourvue de lanterne. Cette certitude de la mort, usant la vie, c'était l'objet du précédent chapitre, les heures fuient. Voici maintenant le portrait de Serge Golovin. C'est ce jeune homme plein de vie pour qui n'arrive pas à croire qu'il va mourir. Un peu comme le condamné à mort de Victor Hugo qui saisit le fauteuil, la table, en se demandant « Est-ce bien moi qui vais mourir ? Comment cela est-il possible ? Quel rapport y a-t-il entre moi qui vis et le néant ? Comment puis-je réaliser le non-être ? » Et Serge Golovin est bien dans ce cas. Il ne peut pas réaliser cette impossibilité monstrueuse, grimaçante du néant. Serge Golovin ne pensait jamais à la mort. Chose à ses yeux, accessoire et étrangère. Il était comme nous tous, la mort n'est jamais présente. Tout ce que nous voyons nous parle de la vie, mais jamais de la mort. Je continue. Il était robuste, doué de cette sérénité dans la joie de vivre qui fait que toutes les pensées mauvaises ou funestes à la vie disparaissent rapidement et laissent l'organisme indemne. De même que chez lui, les égratignures se cicatrisaient très vite, de même tout ce qui blessait son âme était immédiatement anéanti. Il apportait dans tous ses actes, dans ses plaisirs et dans la préparation d'un crime, la même gravité heureuse et tranquille. Dans la vie, tout était gai, tout était important, digne d'être bien fait. Et il faisait tout très bien. Il dirigeait admirablement les bateaux à voile, il tirait avec précision, il était fidèle en amitié comme en amour et avait une confiance inébranlable dans la parole d'honneur. Ses camarades assuraient en riant que si un espion avéré eût juré à Serge qu'il n'espionnait pas, Serge l'aurait cru et lui aurait serré la main. Un seul défaut, il croyait bien chanter, alors qu'il chantait atrocement faux, même les hymnes révolutionnaires. Et il se fâchait quand on riait de lui. Ou bien c'est vous qui êtes tous des ânes, ou bien c'est moi. disait-il d'une voix grave et offensée. Et comme c'est parfois le cas pour les braves gens, on l'aimait peut-être plus pour ses travers que pour ses qualités. Il pensait si peu à la mort, il la craignait si peu, que le matin fatal, avant de quitter le logis de Tania Kovalchuk, lui seul avait déjeuné avec appétit, comme d'habitude. Il avait pris 2 verres de thé et mangé tout un pain de dessous. Puis, regardant avec tristesse le pain à tacles de Werner, « Pourquoi ne manges-tu pas ?» lui dit-il. « Mange, il faut prendre des forces. »« Je n'ai pas faim. Eh bien, c'est moi qui mangerai ton pain. »« Quel appétit tu as, Serge ?» En guise de réponse, Serge se mit à chanter, la bouche pleine, d'une voix sourde et fausse. Un vent hostile a soufflé sur nos têtes. Après l'arrestation, Serge eut un moment de tristesse. Le plan avait été mal combiné. Mais il se dit, maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il faut bien faire. C'est de mourir. La peur de la mort se manifesta en lui progressivement, comme par choc. Il lui semblait que quelqu'un lui donnait d'en bas de violents coups de poing au cœur. Puis la sensation disparaissait, pour revenir au bout de quelques heures. Et chaque fois, elle devenait plus intense et plus prolongée. Elle commençait déjà à prendre les contours vagues d'une angoisse insupportable. « Est-il possible que j'ai peur ?» pensa Serge avec étonnement. « Quelle bêtise !» Ce n'était pas lui qui avait peur. C'était son jeune corps robuste, que ni la gymnastique de Müller, ni les douches froides ne parvenaient à tromper. Plus il devenait fort et frais, après les ablutions d'eau froide, plus la sensation de peur éphémère devenait aiguë et insupportable. Et c'était le matin, après le sommeil profond et les exercices physiques, que cette peur atroce, comme étrangère, apparaissait, juste au moment où, naguère, il avait tout particulièrement conscience de sa force et de sa joie de vivre. Il s'en aperçut et se dit « Tu es bête, mon ami, pour que le corps meure plus facilement, il faut l'affaiblir, et non pas le fortifier. » Il renonça dès lors à la gymnastique. Et pour expliquer cette volte-face, il cria aux soldats « Frère, la méthode est bonne. C'est seulement pour ceux qu'on va pendre qu'elle ne vaut rien. » En effet, il se sentit comme soulagé. Il essaya aussi de manger moins pour s'affaiblir davantage. Mais malgré le manque d'air et d'exercice, son appétit demeurait excellent. Serge ne pouvait lui résister et manger tout ce qu'on lui apportait. Alors il eut recours à un subterfuge. Avant de se mettre à table, il versa la moitié de sa soupe dans le seau. Et cette méthode lui réussit. Une grande lassitude, un engourdissement vague, s'emparèrent de lui. « Je t'apprendrai, » disait-il en menaçant son corps. Et il caressait tristement ses muscles amollis. Mais bientôt, le corps s'habitua à ce régime, et la peur de la mort apparut de nouveau, non plus sous une forme aussi aiguë, mais comme une vague sensation de nausée, encore plus pénible. « C'est parce que cela dure longtemps, » pensa Serge. « Si seulement je pouvais dormir tout le temps, jusqu'à l'exécution. » Il essaya de dormir le plus possible. Il y réussit tout d'abord. Puis l'insomnie survint, accompagnée de pensées obsédantes, et avec celles-ci, le regret de la vie. « Ai-je donc peur d'elle ?» se demandait-il en pensant à la mort. « C'est la vie que je regrette. C'est une chose admirable, quoi qu'en disent les pessimistes. Que dirait un pessimiste si on le pendait ?»« Ah, je regrette la vie. Je la regrette beaucoup. » Quand il comprit clairement qu'il n'avait plus devant lui que quelques heures d'attente dans le vide, puis la mort, il eut une impression bizarre. Il lui sembla qu'on l'avait mis à nu d'une manière extraordinaire. Non seulement on lui avait enlevé ses habits, mais aussi le soleil, l'air, le bruit et la lumière, la parole et la faculté d'agir. La mort n'était pas encore là, et la vie semblait déjà absente. Il éprouvait une sensation étrange, incompréhensible parfois, et parfois intelligible, mais très subtile et mystérieuse. Qu'est-ce donc ? Et moi, où suis-je donc ? Moi, mais quel moi ? Il s'examina attentivement, avec intérêt, en commençant par ses larges pantoufles de prisonnier, pour s'arrêter au ventre sur lequel pendait l'ample capote. Il se mit à aller et venir dans la cellule, les bras écartés, et continua à se regarder, comme le ferait une femme, essayant une robe trop longue. Il voulut tourner la tête, elle tourna. Et ce qui lui paraissait un peu effrayant, c'était lui, Serge Golovin, qui bientôt ne serait plus. Tout devint étrange. Il essaya de marcher, et il lui sembla bizarre de marcher. Il essaya de s'asseoir, et il fut surpris de pouvoir le faire. Il essaya de boire de l'eau. Il lui sembla bizarre de boire, d'avaler, de tenir le gobelet, de voir ses doigts qui tremblaient. Il se mit à tousser et pensa. « Comme c'est curieux, je tousse. Qu'ai-je donc ? Je deviens fou, » se demanda-t-il. « Il ne manque plus que cela. » Il s'essuya le front, et ce geste lui parut également surprenant. Alors il se figea, en une pose immobile, sans respirer, pendant des heures entières, lui semblait-il, éteignant toute pensée, retenant son souffle, évitant tout mouvement, car toute pensée était une folie, tout geste une aberration. Le temps disparut, comme s'il se fût transformé en espace, en un espace transparent et sans air, en une immense place sur laquelle se trouvaient tout, et la terre, et la vie, et les hommes. Et on pouvait embrasser tout d'un seul coup d'œil, jusqu'à l'extrémité, jusqu'au gouffre inconnu, jusqu'à la mort. Ce n'était pas parce qu'il voyait la mort que Serge souffrait, mais parce qu'il voyait la vie et la mort en même temps. Une main sacrilège avait soulevé le rideau qui, de toute éternité, cachait le mystère de la vie et le mystère de la mort. Ils avaient cessé d'être des mystères, mais ils n'étaient pas plus compréhensibles que la vérité écrite dans une langue étrangère.
C'était « Le livre de chevet » de Vladimir Jankélévitch, une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch vous a lu des extraits du livre de Léonid Andreïev, « Les sept pendus », et vous a interprété au piano « La mort rôde » de Gabriel Dupont et un extrait de « Goyescas » de Granados. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
D'entendre le quatrième des neuf épisodes du livre de chevet de Vladimir Jankélévitch. Première diffusion le 1er juin 1967 sur France Culture. À suivre.